RMC, entre les poteaux, Christophe Cessieux.
Salut à tous, dans 10, 20 ou 30 ans, ça dépend un peu de votre âge, et bien ce match, ceux qui l'ont vécu, que ce soit sur la pelouse, en tribune ou derrière leur écran, ils pourront le raconter à leurs petits-enfants au coin du feu, à la veillée. Oui, ce 113e crunch entre la France et l'Angleterre est rentré de plein pied dans l'histoire avec un grand H, un match dingue, riche de 14 essais, de 94 points inscrits, de 7 turnovers au tableau d'affichage, d'un suspense qui aura duré 82 minutes avant que Thomas Ramos n'offre la victoire aux Bleus et le trophée Destination 2020. Un match fou que nous allons disséquer avec la Dream Team au grand complet rassemblée autour de notre capitaine et demi de mêlée, homme de devoir s'il en faut, Wilfried Templier. Salut Will.
Salut tout le monde.
Il est notre match winner, enfin pas toujours, mais de temps en temps. Denis Charvet, sorte d'ancêtre de Louis Bielle-Biarré, est avec nous aujourd'hui.
Non.
T'étais moins fort, tu veux dire
c'était un ailier, c'était quelqu'un qui allait très
bien. Oui, mais tu faisais gagner ton équipe toi aussi.
On parlait de la Gisquet, mais pas moi, non, j'étais trois quarts centre. Oui, Bielle-Biarré, c'est un finisseur, c'est un mec, voilà. Comme il était la Gisquet, Patrice Gisquet.
Ouais. D'accord. T'as jamais sauvé ton équipe.
Pas comme lui, c'est un phénomène.
D'accord. C'est un phénomène. Et puis, nous avons également nos troisième ligne de devoir et de métier. Trois quarts centre, Julien Landry, Pierre Thévenet. À quel poste, messieurs?
Les petites mains. Tout ce que Wilfried nous demande, on le fait.
Ah,
les soldats.
Les bons soldats.
Les
bons
soldats. Ouais, des blagues.
Des blagues.
Les hommes de devoir. On apporte le café à Denis. Tu vois, on apporte le café à Denis à la mi-temps.
Ça, c'est vrai. Ça, faut le dire, Christophe, aux gens les coulisses. Pierre Thévenet.
On a des petites mains.
Arrive avec son petit café pour Denis.
Je l'en remercie.
Tenez, monsieur.
Ce garçon est très bien élevé.
Il y a une antenne.
Ah, ouais.
Voilà. Je sais que Denis, dans son café, à la 34e, il.
Voilà. Il dit plus. Ceux de Louis Bielle-Biarré.
Cette dévotion des pays de même me plaît beaucoup.
C'est la dernière fois que tu as un café, sache-le, pour l'Angleterre. C'est fini. Qui ira le chercher?
Bon, à votre présence nombreuse, on sent bien que ce n'est pas un lundi comme les autres, quand même, les garçons. Oui, car samedi soir au Stade de France, ça a croqué, ça a craqué, mais ça a surtout régalé au cours d'un crunch qui restera dans les mémoires et la légende du rugby français.
Allez, Bielle-Biarré qui va courir, ce ballon, s'il a le bon rebond, ça pourrait être pas mal, il est passé, il marque l'essai, encore une masterclass, le délit peut-être l'essai anglais, signé Tom Roebuck, Jalibert le petit rasant, allez Louis Bielle-Biarré, allez le cadeau, l'essai. Pas de changer de sens, ce petit rasant.
Attention, ce rasant.
Attention, ce mec qui s'est couché sur le ballon, mais il a relâché, ça va faire essai. Essai anglais. Du pont extérieur, ça va faire essai. Le triplé de Bielle-Biarré. Pas d'avantage, et Dupont, donc il met un grand pied devant. Bielle-Biarré à la course.
Allez, Louis.
Sur la boue. Bielle-Biarré. S'il a le rebond, il s'en va le ballon. Est-ce qu'il marque? Essai. Le quadruplé.
Anderil
à 2 mètres, même maintenant. À hauteur sur l'extérieur.
Essai
anglais. Tommy Freeman.
Quel
qui
match.
Vient mettre un glaive dans le cœur des Français à la 77e. Avantage pour l'équipe de France.
Pénalité de la dernière chance.
Il y aura la pénalité de la gagne pour Thomas Ramos.
Pénalité.
La pénalité de la gagne pour l'équipe de France. La pénalité pour remporter le tournoi.
Allez. Il sait qu'il a la pression. Il a la gagne du tournoi.
Allez,
pour l'emporter 48-46.
Le tournoi, il est là à bout de ton pied.
Thomas Ramos qui s'élance. Ce ballon qui part. Thomas Ramos. Tournoi Destination 2026, victoire de l'équipe de France 48-46.
Voilà, pénalité légendaire de Thomas Ramos qui vient conclure un match dingue où l'on aura tout connu et on sera passé par tous les sentiments de l'euphorie à l'inquiétude, de la régalade à la consternation.
C'est une chorale à la fin, quoi. Il y a Wilfried, il y a la tierce que fait Denis, la quinte par Christophe.
Ah ouais, non mais là
c'est la même fin de match qu'il y a deux ans. Hein.
Ouais,
mais sur la fin, il restait
deux minutes. Oui, t'as raison. Le gong.
C'est de la dernière action. C'est sur la dernière action quand même qu'on a cette pénalité.
En fait, on gagne sur une pénalité comme il y a deux ans.
Ouais, exactement. Ouais. Et voilà, bon,
de alors avant
de revenir en détail sur cette rencontre, d'abord votre sentiment, est-ce que vous avez souvenir, alors vous évoquiez ce match il y a deux ans, mais est-ce que il y avait la même intensité, la même émotion provoquée par...
Non, pas du tout.
C'était pour la deuxième place.
Oui, ouais, en plus il n'y avait pas le même enjeu, donc ça n'a rien à voir. Là il y avait l'enjeu, il y avait la première place, il y avait le trophée, quoi. Donc tu te rends compte, sur un coup de pied, c'est incroyable. Ce mec, il est je sais pas moi, il n'est pas fait comme nous, hein, Ramos. Parce qu'il faut la... non, il faut la mettre quand même.
Bah, on va y revenir dans un instant, mais tout d'abord, mais... l'émotion d'un match. Est-ce que tu as souvenir d'un match où tu as vécu autant de choses et tu es passé?
Il y en a eu à la Coupe du Monde, je sais pas, enfin, j'ai pas le souvenir. Le match des All Blacks des quarts de finale, il y a en 2007, pour moi, était un match incroyable.
Ouais, bien sûr.
Incroyable.
La finale 2011,
ouais, 2011
on perd rien. Mais même la demi-finale 99, où il y a un retournement de situation, mais d'une mi-temps à l'autre. Là, c'est quand même, c'est un match de bug. C'est-à-dire que.
C'est incroyable.
Mais la dernière fois en bleu, c'était en 2023 en Afrique du Sud. Quand l'Afrique du Sud, ça finit moins bien. Mais ouais. Ce côté tendu jusqu'à la fin.
C'est parce que ça a fini moins bien,
sûr.
Qu'on veut pas s'en
mais
souvenir.
Mais quand Reda Wardi perd ce ballon dans ce ruck, on est à peu près dans la même situation où on se dit, il faut qu'on aille chercher une pénalité. On est un point derrière.
Dans le côté festif,
pas du tout.
C'était la fête, c'était l'explosion.
Toi, 99, oui, tu parlais de la demi-finale. Mais c'était pas sur la dernière action.
Non, c'est-à-dire que t'as une mi-temps pour les Blacks.
C'est pas le même niveau, mais La Rochelle en finale de avec un geste décisif comme ça pour donner le gain d'un match si important.
C'est
du jamais vu.
Ah ouais,
Romain Tamac qui t'a procuré
autant d'émotions.
Exactement. En 2023 aussi, ouais, c'est vrai, sur un essai. Non, mais c'était pas fini, c'est pas vrai, Julien. Tu vois, t'es coquin et t'es méchant. Parce que le match n'était pas fini. Alors que La Rochelle, c'était la fin du match à la fin.
Tu vois, moi, en tant que joueur, j'en ai connu.
Alors, vas-y. À l'époque, il n'y avait pas la télé, donc raconte-nous un peu.
Il y avait la télé, imbécile. Elle était en couleur déjà. Et en fait, cette demi-finale contre l'Australie.
L'Australie, mais bien sûr.
Dernière 87. Seconde, il transforme et c'est fini, le match est fini.
À Sydney, incroyable.
Et c'est le Blanco à la dernière
seconde. C'est l'un des matchs les plus mythiques du 15 de France.
Donc, nous, moi, je l'ai vécu en tant que joueur, donc je pense que
d'ailleurs,
c'est
là où vous allez le fêter dans quelques temps, vous allez le fêter
dans l'année prochaine, oui, absolument. Ouais. 40 ans.
Et là, ça reste moi, je m'en souviens, j'étais étudiant, mais il y a peu de gens qui étaient nés.
Non, mais c'est
Julien peut-être, Wilfried, sans doute.
J'ai vu des images, mais
l'Australie. 87, France-Australie.
Oui. Je m'en souviens, avant d'aller à l'école primaire. C'est vrai, en plus. Mais je vous l'ai déjà raconté, je crois, en plus, déjà.
Bon, Pierre Thévenet, lui, évidemment.
Et tu imagines des années après, Denis, quoi, je suis à côté de lui, quoi, c'est incroyable.
Incroyable. Ouais. Bon, alors.
Et le mythe s'effondre.
Toi, tu vas nous parler de Fabien Galthié tout à l'heure.
Une émotion qui a donc été poussée à son comble à la 82e minute, lorsque la France, menée d'un point, réduite à 14 contre 15, et que tout le monde voit battu, et bien se voit offrir la balle de match. Pour cela, il va falloir passer la pénalité. Thomas Ramos sourire, Goguenard s'empare du ballon, sans aucune hésitation prend ses responsabilités, à croire qu'il n'attendait que ça. On écoute Thomas Ramos.
Je ne vais pas dire qu'on l'attend, mais au fond de nous, quand je dis nous, c'est les buteurs en général, je pense qu'on l'espère. J'ai eu la chance de croiser Johnny Wilkinson et Dan Bigard après le match, Dimitri Yachvili aussi. Dimitri m'a carrément dit qu'il aurait aimé la taper à ma place. Et les deux autres ont aussi dit que c'est le genre de coup de pied qui rêve de taper et qui rêvait de taper à l'époque. Donc voilà, je pense qu'à ce moment-là, les buteurs, on est tous animés par la même chose. C'est prendre son ballon, se mettre dans sa routine et puis taper le jeu au pied. Sur le moment, ça m'a fait rire parce que je me suis dit que le tournoi allait se jouer à ça et que voilà, c'est fou quoi.
Voilà, le mec se dit ça m'a fait rire. Sur le moment, ça m'a fait rire. Mmh. Il y en aurait d'autres qui seraient liquéfiés à ce moment-là quand tu as la responsabilité.
C'est la marque des grands buteurs en fait. Mmh. C'est-à-dire qu'il n'y en a pas beaucoup, hein, des très grands buteurs. Je pense que Thomas Ramos est le plus grand buteur d'aujourd'hui dans le monde. Mais comme Johnny Wilkinson l'était, ils sont froids. C'est-à-dire qu'il y a une espèce d'inconscience en eux qui leur fait oublier tout l'enjeu. Ça, c'est incroyable. C'est-à-dire qu'ils vont taper cette pénalité comme s'ils tapaient à la première minute quoi, d'un match. Ça change rien. Et même, je crois que ça nourrisse même ces joueurs-là.
Et c'est ce que disait Philippe Saint-André dans Les Grandes Gueules du Sport. Il disait, j'ai entraîné Yachvili, j'ai entraîné Wilkinson, ils sont comme Ramos. C'est des mecs, à l'entraînement, ils la tapent 50 fois en se disant, là, je fais gagner le tournoi à mon équipe. Et ils vivent pour ça, ils s'entraînent pour avoir cette pénalité. Donc Ramos le dit aussi, il dit à Antoine Dupont, on avait l'avantage. Je lui dis, arrête, Toto, arrête de jouer, je prends la balle, je tape.
Oui, on arrête de jouer. Parce qu'après, on sait jamais, l'arbitre peut arrêter.
Je perds de l'énergie, non. On la prend maintenant, je la tape, on gagne et c'est fini, quoi.
Ouais, c'est dingue. Thomas Ramos, Goguenard, porté en triomphe évidemment par ses coéquipiers. La conclusion d'un match dingue. Les Français s'imposent 48-46, remportent le tournoi pour la deuxième année consécutive, exploit qu'ils n'avaient plus réalisé depuis 19 ans. Et leur double succès en 2006 et 2007. C'est le troisième tournoi remporté par le sélectionneur, mais c'est seulement le premier pour l'un de ses vieux grognards et ancien capitaine, Charles Livon, tout à sa joie dans les couloirs du Stade de France.
Beaucoup de bonheur, beaucoup de plaisir. Voilà, le destin a fait que ça se passe comme ça. Je suis content, vraiment, je suis sincèrement content. Ah ouais, ça pouvait pas être simple. Je crois que c'était pas possible autrement. On a pris le score, on l'a rendu, on l'a repris, on l'a rendu. Franchement, c'était vraiment un match particulier. Ils ont sorti bien évidemment leur meilleur match du tournoi contre nous. Oui, certainement, ça va rester dans la légende. Le principal, c'est de pouvoir kiffer, essayer de partager au maximum ces moments-là.
Alors messieurs, tout est bien qui finit bien pour cette équipe de France qui est quand même passée tout près de la correctionnelle. Évidemment, on ne va pas bouder notre plaisir, on s'est régalé samedi soir, mais quelle galère quand même pour obtenir ce résultat. On ne s'attendait pas à un match facile, il n'y en a jamais face aux Anglais. Il n'y a pas de petit crunch, même si je le disais samedi matin, ça ressemblait à un crunchy, mais non, c'était un vrai crunch. On pensait quand même. On est des devins, vous savez.
On ne pensait pas surtout que l'équipe d'Angleterre jouait à ce niveau.
Ouais, bah comme la semaine dernière, on ne pensait pas que l'équipe d'Écosse
allait jouer. Oui, mais sauf que l'Écosse, si on pouvait imaginer pour l'Écosse, pour l'Angleterre, jamais de la vie. Jamais. Ouais. Ils ont produit en rugby un peu comme l'Écosse l'a produit, avec beaucoup de rythme, de vitesse.
Comme quoi, contre nous, les équipes se subliment. C'est la marque des.
Non. Ils étudient notre jeu.
Oui, ils ont compris
ce qu'ils nous faisaient du mal. La preuve, c'est que les Anglais n'ont pas tapé au pied. Donc ils ont joué, ils ont pris la la route du jeu.
Le momentum.
Et puis ça a failli leur sourire. Mais bravo à eux, chapeau à eux d'avoir au moins, de nous avoir régalé quand même.
C'est un hold-up pour vous, Wilfried, cette victoire de l'équipe de France ou non ?
Un hold-up, je sais pas, mais sur l'ensemble du match, est-ce que la meilleure équipe a perdu sur ce match ?
Smith a laissé 6 points au pied, l'oublions pas.
En plus, exactement, il fait 50%, ils font 63% au pied, quand nous on fait 100%, et ça fait la diff. Et puis, ça enlève pas le talent de Louis Bielle-Biarré, mais c'est sûr que on a beaucoup de... Allez, la moitié de ses essais, c'est de l'opportunisme, et il y en a, c'est construit, on lui met le ballon comme ça, mais le quatrième, c'est un avantage anglais, et ils perdent le ballon à 70 mètres de leur ligne.
En plus.
Oui, alors ça c'est une chose en plus, parce qu'il dit, bon, moi on l'a dit à l'antenne, parce que il y a François Kroos qui tape sur le ballon, ça fait avantage pénalité, et l'arbitre vidéo lui dit non, c'est un simple en avant, et il le dit comme ça, avantage en avant, mais il le dit pas aux Anglais qui eux tapent, et sur un en avant, quand vous tapez, vous perdez le ballon, et 70 mètres plus loin, vous perdez une partie de ce match.
Je pense que si on avait été Anglais, on aurait bien tapé sur l'arbitre quand même, hein, comme on sait le faire régulièrement.
Ils ont râlé
comme savent le faire les Français.
Qui a quand même bien râlé en disant qu'il allait parler à World Rugby, que c'était pas possible que des choses comme ça arrivent. Enfin, ils ont signalé que sur cette action-là.
Je l'ai pas lu, c'est pour ça que j'étais étonné.
Steve Borthwick a dit en conférence de presse, on peut pas ne pas informer les joueurs que c'est plus un avantage sur pénalité. Les arbitres peuvent pas faire leur tambouille dans leur coin.
C'est une grave erreur.
Venir au courant, voilà.
Non mais sans polémiquer, c'est une grave erreur d'arbitrage. Quand même, parce que quand tu sais qu'il y a un avantage en cours, tu joues et
tu joues pas pareil.
C'est l'extra balle, c'est pas la même.
Ouais. Alors, on va dépayer ce qui a fonctionné, ce qui a moins bien marché. Au chapitre des satisfactions, on l'a vu, il y a évidemment Ramos et ses coups de pied chirurgicaux. Il y a aussi l'arme fatale des Bleus. On vient de l'évoquer, Louis Bielle-Biarré, auteur d'un quadruplé qui lui permet, Pierre, de battre un nouveau record. Un de plus, certainement pas le dernier d'ailleurs.
Hein. Oui, il est devenu le premier à marquer 9 essais en une édition. Le premier aussi à marquer sur 10 matchs consécutifs d'un tournoi de destination. Écoutez un peu les chiffres, 29 essais en 27 sélections. 6e meilleur réalisateur de l'histoire du 15 de France. Il a mis, Denis, un essai de moins que Philippe Sella. Il a 84 sélections de moins que Philippe Sella. Donc c'est absolument incroyable d'être déjà à ce niveau-là. 127e essai de la saison. Nouveau grand chelem d'essai, je le disais. 3e Français à inscrire un triplé dans l'histoire. C'est devenu vraiment l'arme fatale des Bleus. Fabien Galthié a utilisé ce mot-là. Il y a presque une dépendance à Louis Bielle-Biarré. Et aussi dans le style des essais, Wilfried en parlait, c'est des essais qui viennent quasiment que sur des jeux au pied à suivre. Cette année, il a mis 11 essais en équipe de France. Il y en a 7 qui proviennent directement d'un jeu au pied, soit de lui, soit d'un de ses coéquipiers.
C'est très difficile à défendre, en fait.
Et c'est très dur à défendre.
Très dur. Et tu l'as vu même, parfois, tu as des mauvais rebonds, donc des rebonds favorables, je veux dire, pour lui.
Mais ils sont souvent favorables, les rebonds.
Ils sont souvent très bien tapés aussi.
Ils sont bien tapés, mais bon,
le ballon est ovale quand même. Même si tu tapes bien, tu sais jamais trop comment ça va rebondir.
Tous les essais qui marchent, je regarde.
Il y a tellement d'avance, en fait, à chaque fois.
Voilà, c'est la vitesse qui fait la différence. Tu peux t'expliquer ce que tu veux. Je réfléchissais, je me disais, mais comment ce mec, d'un coup, il sort de là, même s'il est rapide, comment. Mais la vérité, c'est qu'il n'est pas rapide. Il est très rapide.
Regarde le dernier essai anglais. Il y a un mauvais rebond, il se fait plaquer sans ballon, il arrive à tomber, se relever, reprend le ballon, aller marquer. Parce qu'il a ses 2-3 mètres d'avance sur tout le monde tout le temps.
Ouais. Le timing aussi, le sort, sur ouais, premier, le premier, il fait signe à Ramos sur le premier, hein. Il lui fait l'index vers le, vers l'avant, et ce timing là, ce, cet essai dont tu parles, il a le petit jeu au pied quand même, quoi. Il a le, la lucidité,
ah bah
timing,
oui,
c'est,
bien sûr.
C'est une machine. Ouais,
alors, on adore Julien, mais c'est peut-être un peu réducteur quand même, non? Je sais pas ce que t'en penses. C'est vrai que quand tout va mal, on donne un coup de pied à suivre, et puis on dit, allez, vas-y, vas-y, le lévrier, fonce, et va marquer un essai, quoi. Mais s'il est pas
c'est
là.
Ce que Thomas, c'est ce que dit Thomas Ramos d'ailleurs, il dit, non, mais ce que dit Thomas Ramos, match, il dit en fait avec Louis Bielbiaré c'est facile, le rugby tu prends le ballon, quand il y a de l'espace tu tapes et il court après. Moi je pense que malgré tout c'est pas si difficile à défendre pour les équipes adverses, elles vont finir par s'adapter.
Ouais mais là,
je trouve que sur ce tournoi c'est vraiment poussé à l'extrême presque, je trouve. Déjà l'année dernière il y avait, c'était souvent des petits coups de pied que tapait lui-même Bielbiaré, on se rappelle notamment en Italie où il faisait des grands ponts sur les adversaires pour lui-même. Là je trouve que ça devient systématique et que les équipes adverses elles vont se défendre en 13-2, elles vont laisser des joueurs dans le champ profond. Je suis d'accord, mais je pense que les équipes elles vont s'adapter. Regarde ce que fait Finn Russell en Écosse, le petit coup de cul que met Finn Russell à Louis Bielbiaré en se replaçant, en allant dans la course de Bielbiaré. Je pense que, alors normalement Finn Russell aurait dû être pénalisé ce jour-là. Non mais je suis d'accord, mais il l'est pas. Je pense que les équipes vont trouver les parades. Alors tu l'as dit, c'est une arme fatale, c'est très très difficile à défendre, il va tellement vite. Jalibert maîtrise parfaitement les coups de pied, mais je reste persuadé qu'ils vont, les équipes vont trouver des parades. Comme ils ont trouvé des parades à notre défense, ils vont trouver des parades à cette attaque-là des Bleus.
Il va très vite, mais Wilfried a trouvé le mot, c'est le timing. C'est-à-dire que c'est, oui, il a l'anticipation.
Il compte.
Il a l'anticipation et c'est ce qui est le plus difficile sur un terrain. Quand tu es joueur de rugby, il faut savoir anticiper et avoir le bon timing. Et ça, c'est extrêmement difficile. Et lui, j'ai l'impression que c'est un don chez lui. C'est-à-dire que c'est naturel.
Ouais. On le voit contre l'Italie, il met pas 10 mètres à Capozzo sur un sprint, je pense. Mais au moment où il arrive, il accélère.
Il est dans le tempo. Voilà. Il est toujours
pas les
bon
autres,
tempo,
en fait. Quoi.
Et le problème dans ce que dit Julien de défendre en 13-2, donc ça veut dire 13 sur la première ligne et 2 derrière pour couvrir ses jeux au pied. Ça veut dire que le couloir de Bielbiaré va être libre quand ils vont arriver à déplacer le ballon à la main. Bien sûr. S'il prend le ballon dans son couloir, il va lui-même pousser ce ballon au pied. Et je pense que sa vitesse est telle que c'est insolvable. Après, est-ce qu'il va pouvoir durer très longtemps à ce niveau-là sans se faire mal, en restant tout aussi rapide, aussi explosif? Ça, je sais pas. Mais là, à l'heure actuelle, c'est
la seule parade que je vois, c'est de mettre un mec en face de lui, enfin, dans la profondeur. C'est la seule parade que je vois.
Je suis sûr que Erasmus, il va nous trouver.
Regarde, sur le quatrième essai, là où le coup, c'est indéfendable. Oui, Anglais perdent le ballon, il y a 50 mètres d'espace, le coup de pied il est parfaitement donné par Antoine Dupont avec le rebond, et il reste dans le jeu, et là sur ces situations là il est imbattable.
Mais par contre, là où je suis d'accord, c'est que ça peut être un peu dangereux, parce que sans lui, pour moi, c'est devenu l'homme le plus indispensable presque au bleu, parce que sans lui, tu ne peux pas mettre tes essais là.
Et avec Thomas Ramos.
Oui, non, mais ce que je veux dire, c'est qu'un autre joueur peut lui mettre ses ballons dans la profondeur. Il n'y a pas d'autre joueur qui, comme Louis Bielbiaré, peut battre tout le monde.
Mais
aujourd'hui, les 4 essais qu'il met, c'est le seul à pouvoir les mettre.
Dans son genre, il y a eu unique. Il y a des très bons joueurs des îles formidables dans le tournoi, on peut les citer, mais les Irlandais, les Anglais, les Écossais. Mais ils n'ont pas ce don qu'il a. Pour moi, il a un don. C'est pas que la vitesse, c'est un tout, c'est le timing, le tempo, la vision du jeu, l'anticipation.
Pour aller dans le sens de Pierre, Denis, je pense que sans Ramos, ce match-là, tu peux le gagner, parce que tu peux avoir un buteur. Jalibert peut la mettre, cette pénalité-là. Elle est dans ses cordes.
Pas sûr.
Sans Bielbiaré, je pense que tu ne gagnes jamais le match, parce que les essais que met Bielbiaré, je suis d'accord avec Pierre, il est les seuls à pouvoir les marquer aujourd'hui. Dans le monde, je pense, et puis le système de jeu est fait autour de Bielbiaré. Je pense que sans Bielbiaré, ce match, on ne le gagne jamais.
Oui, t'as oublié quand même que l'autre, il fait 100% au pire.
Je suis d'accord avec toi, je suis d'accord. Mais je reste persuadé que
Jalibert. Au niveau international, c'est incroyable. Il fait 100% sur le match.
On a deux scoreurs, un au pied, un à la main.
Je suis d'accord avec toi.
On a deux joueurs et le reste, bon.
Bielbiaré, c'est l'arme fatale et que sans lui, mais Ramos, il met 100% au pied.
Ah non, mais je suis d'accord. Ramos,
il fait Finn Smith, il loupe, il fait perdre l'Angleterre avec
50%.
Après, ses marqueurs d'essai vont aussi s'éloigner, lui rendre la tâche un peu plus difficile.
Après, chez Homme, il est tout seul, il a calé entre les poteaux.
Ah oui, c'est ça.
Il va aplatir, il plonge dans le but parce qu'il était content de marquer. Enfin, voilà, c'est des erreurs d'appréciation qui sont incroyables.
Des Bleus qui auront donc inscrit la bagatelle de 30 essais, soit 10 de plus que l'Irlande, qui est la dauphine de la France dans ce tournoi, et le même nombre d'essais que l'an dernier. L'attaque avec LBB dans ses rangs, bon, c'est une affaire qui roule, on l'a dit. Il ne faut pas non plus qu'il soit absent. Mais bon,
on va pas...
On se faisait la réflexion avec Julien dans les tribunes, c'est qu'on avait une équipe structurée qui savait ce qu'elle faisait, et nous c'était quand même un joyeux bazar. C'est-à-dire que oui, quand on arrive à mettre le ballon dans le dos pour Bielbiaré, c'est gagné à chaque fois. Mais il y a un manque de structure, je trouve, en attaque. Julien a beaucoup parlé des lancements qui sont pas bons, mais je trouve qu'on sait pas trop quoi faire.
Alors qu'on savait faire de face à l'Irlande, souvenez-vous, la première mi-temps est exceptionnelle. Donc je sais pas comment le jeu s'est délité.
On va en parler, mais tout s'est délité, étiolé au fur et à mesure du tournoi.
Mais Denis, n'oublions pas que même contre l'Irlande, les lancements ils sont pas bons. Et Patrick Arletas, le lendemain de l'Irlande, il dit on n'avait pas travaillé les lancements. Clairement, si on fait la même chose contre les Gallois, je serais pas satisfait.
D'ailleurs,
les lancements de jeu aujourd'hui, c'est un vrai problème de cette équipe de France.
D'ailleurs, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi.
On a aucune structure. Je suis d'accord avec Pierre.
Mais les Anglais en touche, ils ont été incroyables. Je sais pas s'ils sont comme ça tout le temps, mais là, c'était un travail propre.
Alors, si les Bleus, il y a quand même un petit bémol, on a bien compris, vous n'êtes pas non plus complètement satisfait, il faudrait peut-être que travailler un peu les lancements et toutes ces attaques de l'équipe de France, hein, quand on a vu ce qu'était capable de faire l'Écosse la semaine dernière, on rêverait de faire aussi bien. Si les Bleus, donc, régalent en attaque, il n'en est évidemment pas de même en défense. En deux matchs, ils viennent d'encaisser, Julien, la bagatelle de 14 essais. Du jamais vu
96
pour cette équipe de France, dont on louait il y a encore peu la solidité défensive, initiée et amenée par Sean Edwards, ce patron de la défense. Oui, mais ça, c'était avant, depuis, c'est plus du tout ça.
Oui, on se rappelle ce rideau infranchissable en 2021-2022. On se rappelle même après le match de l'Italie, où les Français avaient encaissé que 8 points et qu'on avait loué la capacité défensive de cette équipe de France, qui était tombée ce jour-là sur une équipe qui lui avait fait très mal, mais qui avait manqué de densité et d'imagination pour nous transpercer. Et c'est vrai que depuis l'Écosse, et surtout contre l'Angleterre, c'est porte ouverte. Alors pour l'Écosse, il y avait eu 78% de plaquage, ce qui avait pu expliquer le match un peu raté. Là, on est à 91% de plaquage réussi, ce qui est dans les hauts standards du niveau mondial. Mais le vrai problème, c'est qu'on ne conteste plus un ruck. J'ai noté 28 rucks contestés sur 98 à peine, quand les Anglais en ont contesté 78 sur 100, je crois, quasiment. On a récupéré un seul ballon en Écosse, aucun ballon récupéré. Il a fallu attendre la 61e minute contre les Anglais pour que Jean-Baptiste Gros mette la main sur le ballon.
Important d'ailleurs.
Donc en fait, oui, il est très important. Non, mais le vrai problème, la force de l'équipe de France au début du mandat Galtier, c'était les Marchands, c'était les Aldrit, c'était les Cross qui mettaient les mains, qui ralentissaient tous les ruck. Aujourd'hui, on ne ralentit plus un ruck. Du coup, on passe notre temps à reculer, à défendre en reculant. Et les Anglais et les Écossais, et d'ailleurs, les Anglais l'ont vu, et Denis l'a dit, ils ont ciblé notre faiblesse. Ils ont mis de la vitesse. Tu te rends compte qu'avec cette équipe aujourd'hui, si tu mets de la vitesse, que tu vas rapidement jouer le milieu du terrain et que tu reviens dans le sens, les Français, ils sont désorganisés. Mais aujourd'hui, ils ne savent plus défendre. Et c'est vraiment très inquiétant. C'est très, très inquiétant.
Ils sont désorganisés, mais en même temps, ils subissent. Donc, subir en rugby, c'est se fatiguer. Et c'est comme ça que faire des fautes, évidemment. Manquer de lucidité dans les moments cruciaux.
Non, mais on n'a pas gagné une seule fois la ligne d'avantage,
surtout,
quasiment défensivement. C'est impossible.
Mais sans ça, t'es sur le reculoir, tu prends les impacts, tu recules systématiquement. Tu peux pas défendre d'une manière cohérente, je veux dire, à 15. C'est pas possible.
On a pris 19 essais dans ce tournoi. C'est plus le moment de la dépossession et voilà, le rugby est bien plus offensif, mais c'était 7 essais pour le Grand Chelem. On avait encaissé 7 essais. Là on l'a fait en un seul match. Et tu parlais des rucks, on est dernier au grattage. On est dernier. Huit grattages dans tout le tournoi. L'Irlande a 19, quoi. Donc, comme tu l'as dit, on les laisse enchaîner. Même si on alimente le rideau défensif, sur les talons, quoi.
Un dernier chiffre juste, Denis, 117 situations défendues contre les Anglais. 59 fois, on a perdu la ligne d'avantage. Donc, c'est-à-dire qu'une fois sur deux, les Anglais, quand ils ont été nous taper sur les collisions, on a reculé. J'en reviens à dire. Donc, tu recules tout le temps. Et puis après, il y a la réorganisation défensive. On va dire que je fais une fixette sur Mathieu Jalibert. Et c'est pas contre Mathieu Jalibert que je fais une fixette. C'est la réorganisation française qui veulent
protéger
Mathieu
Jalibert.
Parce
que sur l'homme, il est plutôt propre, Mathieu Jalibert.
Mais c'est pour ça, c'est pas une critique contre Mathieu Jalibert. Mais le fait de t'adapter en permanence, quand tu dis que les centres sont déconnectés, c'est parce qu'en fonction de la zone du terrain où tu leur dis de défendre, ils défendent pas pareil. Donc je pense que cette adaptation.
Ouais, mais ça, je suis pas d'accord avec toi. Parce que sur l'homme, si t'es fort sur l'homme, t'as pas.
Je suis d'accord.
Mais
tu fais des adaptations défensives. Mais c'est pas contre Mathieu, encore une fois.
Mais ça, c'est pas une grande adaptation. Non, pour moi, non.
Denis, tu t'adaptes tout le temps.
T'as une ligne. Mais souvent, on a subi tellement le plaquage que tu le loupes. C'est surtout ça. C'est l'homme. Pour moi, c'est une carence qui est évitable. Pour moi, j'ai du mal à l'expliquer d'ailleurs. Et dernier point, on a essayé aussi beaucoup de jeux en mêlée où on a beaucoup subi. Donc il y a quand même le problème aussi de la mêlée.
Et est-ce que c'est pas le... Parce qu'il y a eu, il y avait le problème de la discipline en novembre, mais notamment des lignes de hors-jeu. On a vu que les Bleus, dans ce tournoi, prenaient 50 cm de plus, ils reculaient pour jamais être hors-jeu. Est-ce que le fait de prendre cette petite marge-là fait que tu vas moins dans les rucks? Je sais pas, hein, c'est une question que je me pose, mais vu qu'on voyait les Bleus se replacer très vite et essayer de reculer pour jamais être hors-jeu, il y en a pas un, en fait, qui allait pour essayer de gratter le ballon. Ah
ouais. J'ai pas fait attention à ce détail. Ouais.
Peut-être, mais voilà.
Bon, marquer 30 essais durant le tournoi, c'est magnifique, ça durera peut-être pas toujours, et ce sera compliqué de faire la même chose au boxe, face au boxe en Coupe du Monde. Un constat qu'on n'est pas les seuls à faire. Écoutez ce que disait Thomas Ramos au micro de France 2. Sitôt le coup de sifflet final donné, avant que l'on indique aux Bleus ce qu'il fallait dire, les fameux éléments de langage. T'es pas d'accord avec moi?
Non, parce que Thomas Ramos, pour le coup, est pas lui, sujet pas aux éléments de langage.
Mais bon, c'est mieux, et paf, s'il peut griller la politique. Voilà ce, voilà ce qu'il dit.
On va profiter de cette victoire, mais par contre, pour la suite, voilà, il faudra se dire les choses, parce qu'on ne peut pas, à ce niveau-là, prendre 50 et plus de 40 points. C'est, si on veut exister dans les grandes compétitions, avec autant d'essais encaissés, ça sera sans nous.
Ce sera, ce sera sans nous. Tu vois, on a essayé de le.
Fabien a essayé de le.
On a essayé de l'écouter.
Pour le coup, Christophe, là où je veux défendre Thomas Ramos, non, Thomas Ramos a dit exactement la même chose en zone mixte.
Oui, c'est pour ça, c'est pour ça que je disais non.
À la presse écrite. Alors, nous, avec la télé, on lui a pas posé la question de la défense, parce qu'après, en fonction du moment où les joueurs arrivent, t'as plus ou moins de temps avec eux. Et du coup, Thomas Ramos a tenu exactement les mêmes propos, une heure quasiment après le match, à la presse écrite.
D'accord.
En disant que c'était pas possible d'encaisser autant de points pour exister au niveau international.
Alors, Thomas Ramos. Thomas Ramos, oui, ça, de futur coach, ça c'est une certitude. Thomas Ramos qui joue carte sur table avec les médias. Qu'en est-il de son sélectionneur qui, une demi-heure plus tard, en conférence de presse, arrive, voilà. Et évidemment, un journaliste perfide, comme on sait l'être, fait part de la réflexion de Ramos au sélectionneur. Fabien ne va pas se démonter.
C'est juste, mais pour le moment, on vient de gagner une grande compétition. Donc ça faisait partie des points d'amélioration dont parlait Antoine.
Voilà, Galtier un peu embêté qui préfère botter en touche, circuler.
Circuler, on a gagné.
Non, mais on a gagné, c'est un message à la destination des médias, mais le sélectionneur ne peut pas ne pas s'inquiéter d'une une telle fragilité.
Bien sûr, mais il le sait.
Il le sait. Bah, oui, mieux que nous. Coupe du Monde,
mais mieux que nous. Il sait très bien. Et il sait très bien qu'il faut qu'il cherche un pilier.
Il n'a pas explosé de joie quand il fait finale, Galtier. Il n'était pas
soulagé.
Il était soulagé.
Ouais, soulagé, mais il sait le chantier qu'il attend. C'est le vrai chantier qui l'attend, hein, parce que.
Mais il pourrait le dire, hein. C'est pas grave, hein. Bon, il est resté dans l'émotion samedi soir, mais il pourrait le dire, parce qu'on le sait,
après la Coupe du Monde, il a jamais rien dit, donc il va pas commencer à parler maintenant. Il dira rien. C'est sa méthode. Alors on pourrait dire que c'est la méthode Coué, mais même pas. C'est son fonctionnement à lui. Faut pas essayer de trouver des réponses qu'il n'en donnera pas.
Et dans la com, parce que Julien en parle souvent, il accentue encore une autre chose, c'est qu'il ne veut jamais parler des cas individuels. C'est-à-dire quand on lui pose des questions sur les joueurs, il va citer tous les joueurs qu'il a à disposition. Il ne veut jamais, même quand c'est pour mettre en avant un joueur, il se refuse à le faire dans son destination.
Qu'est-ce que t'en penses, Julien, toi, de Fabien?
C'est gratuit.
T'as le droit, là, t'as deux minutes.
Juste un petit mot quand même sur Sean Edwards, donc l'entraîneur de la défense qui avait été recruté, c'était une prise de guerre à l'époque, lorsque l'équipe de France l'avait récupéré. Ça a bien fonctionné pendant quelques années. Est-ce qu'aujourd'hui, il est encore l'homme de la situation, selon vous?
Moi, je crois, oui.
Oui?
Je sais pas, moi je pense que c'est pas qu'un problème d'organisation défensive, c'est un tout, tout est lié, il y a beaucoup de choses qui sont liées, il y a aussi la composition d'équipe, le manager, je pense pas que lui soit responsable entièrement de la défense, moi c'est mon avis.
Est-ce que c'est encore lui qui décide?
C'est pas sûr ça.
Non mais qu'est-ce que t'en penses, Wilfried, toi?
Son influence est moins grande qu'avant.
Mais à quel niveau?
On le voit dans les attitudes, à l'entraînement, dans son rôle, on entend des choses comme quoi son influence, elle est beaucoup moins importante qu'avant, quoi, Sean Edwards. Ouais.
Oui, mais l'influence,
il avait déjà été remis en question en 2023 et Denis avant la Coupe du Monde. Ça avait déjà été compliqué et il s'est maintenu en poste, pas forcément avec l'avis. Il était déjà contesté à ce moment-là. Moi, pour aller dans le sens où je trouve qu'il a moins d'influence, on a été attaqué dans les mêmes zones par les Écossais et par les Anglais.
Oui, ça c'est
donc
vrai.
Donc c'est clairement une faille que les équipes adverses ont trouvée dans notre défense. Les Écossais et les Anglais ont fait la même chose sur ce match-là.
Oui, tu as raison.
Donc c'est clairement une faille. Donc ou c'est moins travaillé, ou c'est délaissé, ce qu'avaient dit les Français avant l'Écosse en disant on a un peu délaissé la défense, on y a moins mis un focus. Et donc c'est un vrai problème, mais de pas trouver une solution sur, mais attends, sur ce que propose l'adversaire, c'est un vrai problème aujourd'hui.
Julien, je pense que jamais ils auraient pensé que les Anglais allaient jouer comme les Écossais. Je le pense sincèrement. Je pense
que c'est une grave erreur, Denis,
oui,
quand même.
Oui, c'est une erreur, mais je suis persuadé qu'ils ne s'attendaient pas à une telle réaction anglaise. J'en suis sûr.
Vois, c'est là où j'en veux à Fabien Galthié parfois, où il dit ah, je suis le seul staff qui travaille, ouais. Patati patata. Quand j'entends Thomas Ramos qui yop, c'est vrai, quand il dit on pensait que les Anglais allaient taper des chandelles tout le match, c'est fou de se dire qu'encore une fois, tu t'adaptes pas. Mais comme en Écosse.
T'as raison.
À la mi-temps, au bout d'un moment, moi j'en reviens à la même chose en Écosse. Quand tu te rends compte que le plan il est pas bon à la demi-heure, coach ton équipe. Là c'est pareil, tu te rends compte que les Anglais ont décidé de jouer. Adapte-toi, change, t'as le droit pendant le match aussi d'être un sélectionneur qui a une influence sur ton équipe pendant le match. Voilà, et je trouve qu'il n'a pas d'influence sur l'équipe pendant le match. Les matchs sont sûrement bien préparés, alors avec des failles contre l'Angleterre et contre l'Écosse, mais quand, en cours de match, quand tu sens que ça tourne pas comme t'avais prévu que ça tourne, à savoir que les Anglais tapent pas des chandelles et tapent pas au pied, adapte-toi, arrête de laisser le ballon dans le terrain, trouve des touches. Voilà, et moi je trouve que Fabien Galthié n'a pas assez d'influence dans son coaching.
Je pense qu'à la mi-temps, on aurait dû revenir à un jeu très simple. Très simple.
Mais comme en Écosse.
Et comme, oui, mais comme il y a pareil. En 2020 ou 2021, où la défense, eh bien, c'était la dépossession, voilà, et la défense, eh bien, restait infranchissable.
Pour la défense, quand même, avant l'interception de Chessa, on reprenait le dessus sur les Anglais. Hein. Il y a 38-27 à ce moment-là, en début de deuxième mi-temps, alors qu'on est mené
25-17 avant le match. Hein. Ils prennent
14. Mais bon, on peut aussi souligner certaines choses.
Bien sûr.
Si Chessa ne fait pas cette interception, je ne suis pas sûr que les Anglais. En plus, on a un temps fort à ce moment-là. Donc, à 38-27, si on remarque, je pense qu'on tue le match.
Non, mais si Ramos ne marque pas la pénalité, qu'est-ce qu'on dirait aujourd'hui?
Oui, c'est une bonne question.
Ça, c'est vrai aussi.
C'est une très bonne question.
Sur le fait qu'on est passé à côté de la catastrophe.
J'ai pensé le lendemain, moi, le dimanche. Je me disais, c'est marrant, s'ils avaient perdu.
Quand on était mené, je dis, il y a l'after qui arrive, qu'est-ce qu'on va dire? On va balancer sur l'équipe.
Julien se frottait les mains.
Ça m'étonne pas.
C'était terrible.
Non, mais c'est vrai que la victoire, elle masque tout. Enfin, elle masque beaucoup de choses.
Comme d'habitude.
Elle masque, mais enfin, je vous signale que depuis une demi-heure, on est quand même en train de balancer sur l'équipe de France.
On vient de gagner, c'est toi qui as fait conducteur, on vient de gagner, c'est sourire, il est tout sur nous, je rêve.
Non mais moi je vais te dire la satisfaction du match. La vraie satisfaction, c'est que tu l'as gagné ce match. Dans les conditions, dans le contexte qui était celui-là, le déroulement du match, le scénario du match, tu te dis, il faut être très fort mentalement pour le gagner.
Et ça faisait longtemps qu'on n'avait pas été aussi fort mentalement.
Et ça, il faut le relever. C'est-à-dire que il faut une résilience, il faut une force de caractère quand même incroyable.
Il y a toute une séquence défensive à la fin.
Donc, voilà, si on veut trouver des points positifs, il y en a des points positifs.
Mais c'est bien.
Mais il y a tellement de choses qu'on sorte ce match avec, en se disant, les collisions, plein de choses.
Non, mais c'est pas ça. C'est que si tu fait 9 fois 10 fois le match, tu le perds 9 fois. Maintenant, comment on fait pour ne pas le perdre 9 fois sur 10? Parce que la vérité, si tu es dans le même contexte, à la même équipe anglaise, tu le repères. Si tu n'es pas préparé avec une stratégie.
On garde le même arbitre.
Ah, non, mais avec une stratégie mise en place, avec un coaching qui n'est pas forcément le même. Donc voilà, il y a plein de choses qui rentrent en jeu, on est d'accord.
Juste pour finir sur l'arbitre, pour être complètement honnête, l'essai de pénalité, pour moi, il y est, mais avant, il y a un écran.
Il y a
Méa Fou. Ouais. Oui, non, mais juste la finalité, quand il écroule à un mètre de la ligne, voilà, mais avant, il y a Méa Fou et Gros qui sont devant Flamand, devant le sauteur.
Il y a 10 points d'avance.
Et quand on passe cette vidéo, on se dit, oulala, il va peut-être refuser l'essai.
Il hésite d'ailleurs.
Et là, il y a 10 points d'avance. Tu tournes à 10 points d'avance à la mi-temps pour eux. Et là, c'était pas le même. Ouais.
Juste parce qu'on va me traiter de pisse froid encore. Hein, parce qu'il est jamais content que l'équipe de France gagne. Non, mais après, c'est quoi l'objectif? C'est quoi la finalité? C'est d'être champion du monde l'année prochaine. On est d'accord. C'est ce que nous répète Fabien Galthié depuis qu'il est arrivé. Donc aujourd'hui, Fabien Galthié, il a 11-12 matchs à sa disposition pour faire travailler l'équipe de France. Là, en février, on l'a déjà dit, il ne les a pas beaucoup fait travailler, il leur a offert beaucoup de congés. Donc il y a ces 5 matchs-là de novembre, il y a les 5 matchs de tournée à destination, il y a les 3 matchs de la tournée de novembre, l'oublions pas quand même, on est sorti.
La dernière
tournée de novembre. Sur les 8 derniers matchs, donc les 3 derniers matchs de la tournée de novembre, on n'est quand même pas sorti très rassuré de ce qu'on avait vu, soyons honnêtes. Sur ces 5 matchs, il y en a quand même 2. Où on n'est quand même pas non plus globalement très satisfait. Donc ça fait quand même 5 matchs sur 8 où on a des doutes. Donc il va nous rester 12 matchs à jouer, donc la finalité aujourd'hui, et pour ça que moi je suis inquiet, c'est est-ce que cette équipe de France, de ce qu'elle nous montre aujourd'hui sur les 8 derniers matchs avec toutes les lacunes qu'elle a, est-ce que cette équipe de France-là peut être championne du monde? Pour moi, la réponse aujourd'hui, elle est clairement non. On a trop de lacunes. On a trop de lacunes défensives. On a trop de lacunes dans la conquête. On a trop de lacunes sur les points forts historiques que sont ce jeu, le combat d'avant, les zones de collision. Sur tout ce qui fait la quintessence de ce jeu, on a des lacunes. Alors oui, offensivement, on est capable de tordre tout le monde. Mais je trouve qu'on a trop de lacunes aujourd'hui pour être championne du monde. Donc moi, sur les 8 derniers matchs, il y en a 5 qui m'inquiètent. Donc je peux pas me réjouir de ce que nous montre l'équipe de France.
Bon, Julien va évidemment trop loin, comme d'habitude, parce qu'il est trop sévère avec l'équipe de France. Non, mais là où il a raison, c'est qu'il y a plein de secteurs qui sont inquiétants pour l'équipe de France, mais peut-être qu'on voit cette équipe de France un peu trop belle aussi, parce qu'on a des super joueurs et des clubs qui marchent très bien.
On l'a vu trop belle à l'issue des trois premiers matchs.
Oui, mais quand tu vois le tournoi destination, il y a des équipes qui ont une meilleure première ligne que nous, il y a des équipes qui ont une meilleure paire de centres que nous, il y a des équipes qui ont un paquet d'avant plus solide, et on va se battre. Je dis pas qu'on peut pas être champion du monde, parce qu'il y a tellement de scénarios que tu peux être champion du monde même si t'es pas hyper performant partout. Mais je pense qu'on sous-estime un peu non pas le niveau de nos adversaires directs, mais le niveau du rugby mondial. On n'est pas largement au-dessus de la mêlée avec les Sud-Africains. Il n'y a pas les Sud-Africains, nous et le reste du monde. Il y a les Sud-Africains et nous, on est avec le reste du monde. Maintenant, on est largement la meilleure équipe d'Europe.
De manière régulière, c'est ça. Pierre. Hein.
Mais, et c'est pour ça que là, on
les
a
Blacks,
été...
Les Blacks, c'est ascenseur, c'est face enfin, aux montagnes russes.
On a été très bon.
Les Anglais, ils étaient nuls. Tout d'un coup, au dernier match, on dit, oui, ils sont énormes, Anglais.
Ah non, pas du tout.
Mais je veux dire, si on regarde les forces en présence, oui. Les Écossais sont ramassés en Irlande, ils étaient champions du monde contre nous, et les Italiens sont restés italiens parce qu'ils ont vécu leur pic d'émotion contre les Anglais et ont perdu au Pays de Galles largement. Donc,
et les Irlandais seront jamais capables de gagner un quart de finale.
Non, mais tout le monde est irrégulier, et nous, dans notre irrégularité, on reste plus fort que les autres. Et c'est ça qui est rassurant, c'est que même quand on est moins bon, on gagne le tournoi. Mais personne n'a réussi à avoir de la stabilité sur les performances, et comme dit Julien, nous non plus. Voilà.
Il n'y a que Rassi Erasmus qui est avec son cigare dans son canapé. Ouais,
tranquille. Il est peinard et il est vraiment au-dessus.
Après, il paume des matchs de temps en temps aussi.
Oui, ça lui arrive aussi, mais pas des matchs de Coupe du Monde.
Ah, contre l'Australie, l'été dernier, il en paume.
Oui, pas beaucoup.
Oui, mais ça comptait beaucoup, non?
Non.
Bah, je pense que ça compte autant pour lui que quand il vient jouer à l'Angleterre.
Ça n'a pas empêché de gagner le tournoi.
Non, bien sûr. Nous non plus, ça ne nous a pas empêché de gagner le tournoi.
C'est vrai. Bon, malgré tout, on remporte un deuxième tournoi consécutif. Est-ce que vous trouvez que l'équipe de France, dernier cru, est en progression par rapport à celui de l'année dernière?
Stable.
Je réponds pas, du coup.
Je dirais stable.
Stable. Pas stagnation, tu veux dire. Stable ou stagnation, c'est pas pareil.
Pour moi, on est au même niveau que le tournoi de l'année dernière. Il y a eu la tournée d'été qui a servi à rien. On était moins bon en novembre. Et pour moi, on fait un tournoi qui est à peu près équivalent à celui de.
Par rapport à 2023. Avant le quart de finale.
Oui, mais on le gagne. Tu peux dire qu'on est pareil.
On l'a gagné pareil.
On est moins fort devant, moins fort en défense et on est meilleur en attaque.
Moi, je trouve qu'on a montré.
On a marqué autant d'essais que l'année dernière.
Tu peux pas te résumer au nombre d'essais.
Moi, je trouve qu'on a montré des failles qu'on n'avait pas montrées par le passé et qui ne sont pas rassurantes. Ouais. Voilà, c'est tout. Après, la qualité individuelle, elle est exceptionnelle. Mais c'est pas les individualités que tu gagnes forcément.
Alors on a évoqué la défense.
C'était plus construit nos essais l'année dernière, Pierre. Ils étaient plus construits nos essais l'année dernière. Je trouve qu'on avait des meilleures structures offensives que ce que j'ai vu sur ce tournoi-là, où tu l'as dit, sur les essais marqués notamment par Biel Biarry, il y en a la moitié qui viennent de jouer au pied et pas forcément construits.
Non, mais si t'as l'opportunité de marquer un essai en deux passes et un coup de
pied, ça veut dire qu'offensivement, on n'a pas progressé.
Non, mais t'as pas pris autant d'essais l'année dernière.
Non, bien sûr, ça, je suis d'accord.
C'est ça,
on s'adapte à une force exceptionnelle qu'on a. Et c'est une vraie qualité.
On a évoqué la défense, on a évoqué les grattages, ce sont des points faibles aujourd'hui de l'équipe de France, mais c'est des choses qui peuvent se travailler et qui peuvent s'améliorer d'ici 2027 et cette Coupe du Monde. En revanche, pour densifier le pack de l'équipe de France, qui là aussi, et c'est une première presque dans l'histoire du rugby français, de voir une mêlée se faire autant bouger par ses adversaires, là il nous faut de la main d'œuvre et on n'est pas sûr de l'avoir d'ici 2027, cette main d'œuvre pour être aussi opérationnel et justement affronter les box, les Anglais et les autres qui sont, me semble-t-il, plus forts que nous dans
non mais les joueurs, tu les as, les joueurs.
Il y a les joueurs, tu les as, le pilier droit, tu les as.
Mais tu les as dans le sens où tu vas trouver qui, à part un ovni qui va sortir du bois. Moi, je sais pas, je le vois pas, moi. D'accord. La vérité, c'est qu'après, ils peuvent s'améliorer individuellement. Un gars comme Montagne peut s'améliorer.
Il faudrait qu'il joue,
bon, mais oui, mais bon, Tatafu, j'ai du mal à. Parce qu'il est blessé tout le temps. Il y a Bamba qui est une énigme. Froome, pour moi, qui, contre la semaine dernière, avait fait une très bonne rentrée en Écosse.
Mais il a confirmé que c'était un joueur indiscipliné. C'est pour ça qu'il ne revenait plus en équipe de France. Non, c'est compliqué, hein, à droite. Hein.
On en parlait avec Julien. Pourquoi Montagne n'a pas commencé ce tournoi destination? C'est incompréhensible. Ils le font jouer les trois tests de novembre titulaires. On dit il souffre, mais Ravat, Sampéré nous disent il progresse, il apprend. C'est important qu'il apprenne. Et on arrive contre l'Irlande, c'est Doudou qui joue. C'est vrai que Montagne, après, s'est fait mal au cervical, mais j'ai du mal à comprendre ce choix au départ de ne pas faire enchaîner Montagne, qui n'est pas moins bon qu'en novembre.
Dans les U20, on n'a personne.
C'est très jeune, Denis,
des piliers à ce niveau-là, c'est difficile.
Il y a aussi
donc
des
on reste quand même sur le, juste Christophe, on reste donc sur les trois derniers matchs martyrisés en conquête par les Italiens, par les Écossais, par les Anglais, et n'oublions pas qu'on a joué les Irlandais sans leur meilleur pilier. Donc je veux pas, faut peut-être pas oublier sans non plus qu'on a joué l'Irlande sans Furlong et sans Porter. Donc ce match-là, heureusement qu'on l'a peut-être joué en premier le match des Irlandais dans ce tournoi. Mais
et
en fait sur les cinq matchs et avec Prendergast,
sans me dire qui,
faut pas oublier. Notre conquête, elle a été malmenée sur la quasi totalité des matchs du tournoi destination.
Mais c'est le problème dans notre tête. Souvenez-vous qu'avant, les dernières années, si on disait qui c'est qui peut prendre les box devant, et on l'a fait en 2021
on disait les Bleus.
À Marseille, c'est sur ce match protocole commotion où on les avait battus 30-26 quoi de mémoire.
2022
pardon. 22. On l'a fait. Aujourd'hui, aujourd'hui, on se fait prendre devant. Et ça, c'est nouveau.
On va jouer contre le Japon.
Est-ce que l'équipe de France d'aujourd'hui, celle qui a affronté l'Angleterre, gagnerait contre celle de 2022, justement, qui était passée sur les Blacks en 2021, qui avait battu l'Afrique du Sud en 2022?
Je sais pas.
Biel-Biarrem met 3 essais, donc il faudra que celle de 2022 se débrouille pour en mettre au moins 4.
c'est ça. C'est marqué un essai de plus que les autres, c'est comme ça qu'on gagne au rugby. Bon, difficile à dire évidemment. On va peut-être s'intéresser aux hommes, aux individualités. On a évoqué Louis Bielbarré, on a évoqué Thomas Ramos. Est-ce qu'il y en a d'autres qui
Bielbarré, il appelle comme
Fabien l'appelle comme ça.
Son nouveau nom.
Tu peux te permettre. Pour moi, sur le tournoi, celui qui sort du lot, c'est Mathieu Jalibert. C'est l'avènement de Mathieu Jalibert au plus haut niveau.
Ouais, Julien n'est pas d'accord, je crois.
Si. Je sais pas, moi, il pense ce qu'il veut, Julien. Mais moi, je dis qu'on l'attendait dans ces tâches-là. Il a assumé.
Alors, Denis, je suis d'accord avec toi. Mathieu Jalibert fait un très bon tournoi.
Ben oui.
On se projette, tournée de novembre. Romain Tamac est là. Mathieu Jalibert est là. Qui fait jouer Fabien Galthié.
Il me parle de satisfaction du tournoi.
Mais je suis d'accord. Mathieu Jalibert fait un très bon tournoi. Il nous remet dans le sens de la marche contre les Anglais à la fin avec ses qualités de vitesse et d'appui ou sur le ballon qu'on récupère à la 80e.
Il bat 8 défenseurs contre l'Angleterre.
C'est lui qui remet les Bleus en avançant et je suis d'accord. Et on va dire, et pour le dire, je trouve qu'il a fait un très bon tournoi. Que même sur l'homme défensivement, il a répondu aux attentes qu'on avait placées en lui. Ma question est aujourd'hui, Romain Tamac revenu à son meilleur niveau en novembre et Mathieu Jalibert à son meilleur niveau. Qui fait jouer Fabien Galthié avec le 10 derrière le dos? Romain Tamac.
Mathieu Jalibert.
Mais Romain...
Il faut que Romain retrouve son meilleur niveau.
Romain Tamac a retrouvé son meilleur niveau, je suis très précis dans mes propos.
Parce qu'on n'a pas encore retrouvé celui d'avant la blessure.
Moi, je pense
que
la stratégie de toutes les équipes, d'ailleurs, aujourd'hui, c'est davantage de jeu. On est d'accord. De moins en moins de dépossession, on va dire. Et on le voit, ça a réussi aux Écossais, ça a failli réussir aux Anglais. Mais si tu t'en mets un jeu un peu plus offensif, tu prends Mathieu Jalibert.
C'est vrai que Romain Tamac n'est pas du tout à la maître du jeu toulousain, qui est un jeu d'effet de dépossession dans le ballon tout le temps.
Je dis pas ça.
Il est capable de le faire, Romain Tamac, jouer son équipe.
On a dit que c'était le meilleur joueur au monde il y a 2 ans.
Revient à son meilleur niveau, on mettra Romain Tamac.
Mais non, il y aura match. Il y en aura un qui sera remplaçant peut-être et l'autre se titulaire.
Bon, c'est plutôt bien. C'est un problème de riche d'avoir
un problème de riche, absolument.
De cette qualité, c'est pas mal. Il y en a d'autres. Tiens, on va vous demander à chacun de sortir un joueur du lot, à part donc les trois dont on vient de parler. Pierre, je commence avec toi.
Je laisse le pilier gauche à Wilfried parce que je pense qu'il va en parler. Je vais dire Brombouari, moi, même s'il fait que 2 matchs. Fabien Brombouari.
Tu aurais pu me le laisser.
T'as parlé de Jalibert.
Non, mais laissez-nous chier à toi.
Ensemble, c'est à moi quand même.
Fabien, t'as dit Jalibert. Fabien Bomboiri, il fait que deux matchs, il fait que l'Italie et le Pays de Galles, mais il fait 31 sur 31 au placage. Et on disait que Moefana avait beaucoup manqué en novembre, ce qui était vrai, mais là il revient. Moefana, il fait deux mauvais matchs, enfin un très mauvais match et un match compliqué contre l'Angleterre aussi. Donc je pense que même de par son absence, Bomboiri a manqué. Fabien Galthié nous disait avant l'Angleterre qu'ils avaient envisagé de le faire jouer, mais que sur son doigt, sa blessure au doigt, c'était trop juste. Donc moi je pense que s'il était apte, il était en vraie concurrence avec Yoram Moefana, il va avoir sa chance. Mais on a là un très 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 bon joueur pour la suite. On avait beaucoup parlé de Kelvin Gourgue, il est moins flashy Bomboiri, mais par contre il fait tout à la perfection et je pense qu'on va le revoir très vite.
Oui, tu as raison, mais juste deux mots sur Bomboiri. Moi je pense que c'est l'homme providentiel, enfin qu'on attendait, hein. Il va être titulaire, il va être indétrônable. Ça va être le Josion des prochaines années et personne ne va l'enlever de l'équipe. C'est fini là. Lui, tant qu'il ne sera pas blessé, il sera titulaire.
Ok, bah, le problème c'est qu'il est déjà blessé.
Non, mais je veux dire par là, c'est fini.
Il a pété un doigt.
Pour moi c'est ce qu'il fait, ce qu'il a apporté à l'équipe de France, c'est exceptionnel pour des premières sélections.
Wilfried.
Comme il l'a un peu dit Pierre, Aude, enfin Baptiste. Un pilier Jean-Baptiste Gros est un athlète incroyable. On a cherché les stats, on s'est fait confirmer les stats avec Pierre ce matin. Il a tenté 52 plaquages, il en a réussi 52. Il fait 100% sur le tournoi, c'est exceptionnel. Je le revois encore plaqué contre l'Angleterre, se relever sur l'action d'après, replaqué. C'est
et Kinghorn contre l'Écosse, il reprend Kinghorn à la course.
Les images. Je trouve qu'on n'en parle pas beaucoup des premières lignes, évidemment.
C'est un garçon dont on entend peu parler et qui ne parle pas d'ailleurs en plus.
Il est discret, hein, il n'aime pas trop ça. On l'a eu parfois en interview, voilà. Mais bon, 45e sélection samedi, 26 ans, je pense qu'il est au sommet de sa carrière. Et on me l'avait déjà dit, c'est un athlète vraiment. C'est bon, la tenue en mêlée. Je pense que ça va. Il était pénalisé qu'une fois, Jean-Baptiste Gros. Et on est dépendant, pardon, des coéquipiers. Mais c'est et puis c'était pas il a réussi à passer devant Cyril Baye au fur et à mesure des années, donc voilà, Jean-Baptiste Gros, grand coup de chapeau au pilier de Toulon.
Julien,
dans notre manque de densité, j'aimerais saluer le tournoi d'Emmanuel Meafou, qu'on a retrouvé enfin à son niveau, en tout cas contre les Italiens, où il a fait en plus d'ailleurs 80 minutes.
Je rigole parce que je pense au tampon qu'il met à Itoje samedi.
Contre l'Italie, il fait 80 minutes. Et là, contre les Anglais, c'est peut-être le seul qui a réussi parfois à gagner la ligne d'avantage. Notamment, on se revient à ce plaquage sur Itoje. Il apporte une densité physique qu'on n'a pas dans cette équipe de France. Si on trouve un pilier droit un peu costaud, avec Meafou derrière qui lui pousse au cul, ça devrait caler la mêlée. Meafou à ce niveau-là sera essentiel. On parlait tout à l'heure de concurrencer les box dans le combat physique. Meafou me fait penser un peu à ce que pouvait être Willem C, c'est-à-dire cette capacité à avancer, à faire mal à l'adversaire.
Skelton
et
aussi,
voilà. C'est exactement les mêmes profils. Ouais. Et voilà, je pense que ça sera important pour l'équipe de France d'avoir un Willem C ultra présent.
Moi, je mettrais, devant lui en mêlée, je mettrais Tulagi, tu vois, celui de Perpignan. À droite, tu vois, et derrière, tu mets Meafou.
Ah, mais non, il veut pas jouer en mêlée.
Il veut pas, je sais qu'il y en a quelques-uns qui veulent le voir.
On aimerait bien, mais je crois que là.
Il faut qu'il s'impose à Perpignan déjà.
Ouais, déjà.
Oui, mais.
Quand il va, c'est pas qu'il descende en Pro D2, pas qu'il y a du boulot encore. Qu'il s'entraîne et
correctement.
La Rochelle,
il arrive à l'heure aux entraînements.
Alors, messieurs, évoquons maintenant ceux qui ressortent fragilisés de ce tournoi. On va commencer par toi, Denis.
Oh, fragilisé.
Il y en a pas les fragiles.
Oh, j'ai pas trop pensé. Non, j'allais dire Antoine Dupont, mais même pas lui, même si il marque le pas les deux derniers matchs, mais on sait pourquoi. Donc,
je sais pas. Non, t'en as pas. Bon, je te laisse le temps de réfléchir, on va voir.
Mais...
Je vais vers d'autres qui ont les idées plus claires. Pierre, par exemple.
Dans les déceptions, j'ai parlé de Yoram Moefana. Moi, j'en attendais beaucoup. Sa paire avec Deporter a bien marché contre l'Irlande. En novembre, je trouvais qu'il nous manquait clairement de puissance au centre du terrain.
Mais il revient de blessure.
Bien sûr. Non, mais après, on peut parler des joueurs, même s'ils ne sont pas à 100%. Il a joué. Et il a joué en Écosse. Et en Écosse, je ne l'avais jamais vu aussi perdu que ça. Il fait un 8 sur 15 au plaquage, ce qui pour un centre est cata. Et même là, contre l'Angleterre, j'ai du mal à retrouver le Moefana qu'on avait vu énorme l'année dernière, notamment le match à Dublin où il avait marché sur Bundiaki. Donc petite déception moi sur Moefana, parce que je pensais vraiment que c'était lui la valeur sûre au centre du terrain.
Il y en a d'autres que vous voulez sanctionner, taper sur les doigts de certains.
Mes copains tapent sur les doigts de Doudou Aldeguerri, mais on se rend compte que il n'y a pas plus fiable, alors de n'importe quel niveau qu'il soit, hein, les personnes lui a pris la place, a réussi à être titulaire finalement. Fabien Galthié n'a pas mis un autre que Dorian Le Guéry, malgré les sanctions qu'il prend, les fonds mêlés. Mais...
aussi, Wilfried.
Parce que.
Bah parce que il y a des gens qui aiment bien les Toulousains en équipe de France.
Mais dis les choses, arrête de dis les
non,
choses.
Non, mais William Servette le connaît bien et il connaît voilà, bien les avant Toulousains et il le dit en conférence de presse à hein, chaque fois. Il dit moi je connais ces joueurs-là, ce club-là et ça compte dans son choix, c'est certain.
Mais Montaigne était blessé, Colombe n'a pas réussi à le prendre à place, Bamba non plus, ils se font sanctionner, ça reste peut-être le plus fiable qu'on ait à droite. Et Tatafu, pour l'instant, n'est pas un joueur de rugby parce qu'il blesse tout le temps. Donc voilà. Mais c'est vrai qu'on en parlait aussi, les gars, ce matin, les remplaçants, les finisseurs, notamment en première ligne, n'ont pas amené ce qu'ils devaient amener.
Mm-hmm. Julien.
Non, mais je partage.
Tu partages tout,
t'as guéri. Oui, non, mais moi je suis déçu. Mon vaca
n'est pas revenu à son meilleur niveau, il me semble.
Oui, mais pareil, il a pas rejoué. Tu vois, moi, alors, je trouve que Jelonche fait un bon tournoi, mais j'attends plus d'un numéro 8, par exemple, tu vois.
Mais je me demande s'il faut qu'il joue de numéro 8, d'ailleurs.
Non, mais c'est pour ça, je trouve qu'en fait, il a fait un tournoi de numéro 7, Anthony Jelonche. Ouais. Et du coup, on n'a pas un vrai numéro 8 qui est capable de porter le ballon, de faire avancer ton équipe. Voilà. Et c'est pas. C'est pas contre Jelonche, c'est plus contre le choix du staff, parfois. Wilfried parlait des finisseurs. Je trouve que le coaching n'a pas eu d'influence sur ce tournoi. Je trouve que Jelonche, tu le fais pas jouer à son poste. De faire passer Olivon d'un coup 4, d'un coup 7, d'un coup 8, c'est compliqué pour tous les joueurs, en fait. Quand Pierre dit ils sont perdus parfois, je pense que la manière dont ils travaillent et cette capacité à être hyper polyvalent aussi, tu les perds en permanence, en fait. C'est compliqué. J'ai l'impression qu'ils n'ont pas forcément toujours une ligne directrice pour savoir où aller, très clairement.
Quid maintenant des trois bannis de l'hiver, hein, Aldrit, Penaud et Ficou, écartés par Galthié avant le début du tournoi. On se demandait s'ils pourraient un jour revenir en bleu. Est-ce que le train est passé pour eux ou ils ont encore une petite chance après ce qui s'est passé?
Moi, je pense qu'Aldrit va enquiller le Japon. Aldrit va revenir pour le Japon. Penaud, il sera en finale peut-être, donc ça sera plus délicat. Mais lui, il n'est pas qualifié, donc normalement, La Rochelle ne va pas se qualifier. Aldrit, je pense qu'il va revenir. Hein.
Aldrit, ouais.
Oui, sûr.
Julien, tu sais, c'est les devins qu'on a. Donc, vu des dernières semaines, c'est plutôt une bonne nouvelle.
Non, mais les.
Non, mais attends, c'est vrai que La Rochelle marche sur tout le monde.
Ils sont loin.
Pardon, excuse-moi, j'avais oublié.
Je trouve que.
Non, mais les Anglais étaient tristes et nuls. Alors bon, tout peut changer.
C'est l'équipe la plus nulle depuis les 30 dernières années. Il a dit le samedi matin dans les paris.
Non, mais je trouve qu'on non mais je trouve qu'on a vu les trois dans leur secteur ont pu manquer. Quand on voit la défense des centres, même si Gelficou, je suis d'accord avec Julien, il est trop loin maintenant, mais il aurait peut-être fait du bien en termes d'organisation défensive. On n'avait pas un 8 porteur de balle comme on a d'habitude. Et moi, je suis désolé pour Damien Penaud. J'étais pour voir Théo Atisogbé, mais comme je disais à Julien et Wilfried ce matin,
je suis convaincu complètement.
Non, mais, alors oui, je suis convaincu par le niveau d'Atisogbé, qui est un très bon joueur, qui est très bon en défense. Mais si maintenant le but c'est de prendre 40 points et d'en mettre 50, en fait, autant avoir Damien Penaud sur le terrain. Exactement. Parce qu'il va rater les plaquages, mais il peut te mettre un doublé qui sort de nulle part. Donc avoir un Atisogbé qui fait un 10 sur 10.
On en prendra 60.
Non, mais c'est possible, mais Atisogbé qui fait un 10 sur 10, c'est très bien en défense. Mais bon, t'as pris 45 points, donc à partir de là, bon,
non, mais
autant
mettre
Damien.
Revenir, mais il va revenir, Damien. C'est Damien, pardon. Damien, pardon.
Damien.
Damien,
ouais.
Damien.
Damien, si on peut pas.
Non, bon, je suis obligé d'y aller.
Non plus.
Damien, c'est pas son papa, Damien.
C'est Alain, son papa.
Alain, on va son papa.
Alain Charvet, tu te rappelles.
Je pense qu'il y a quand même eu quelques commotions cérébrales.
La commotion n'a pas été diagnostiquée.
La commotion, c'est que j'attends.
Je suis pressé.
Okay, on va envoyer tout ça à Adrien.
Vous savez quoi? Allez, au diable.
Je pense qu'on peut arrêter cette émission pour faire une intervention médicale.
Protocole commotion. Protocole commotion. Je pense qu'il n'a pas répondu aux questions. Donc il restera au vestiaire.
Il reste au vestiaire.
Il reste au vestiaire, celui-là.
Oh là là.
Pardon.
Messieurs, revenons à notre équipe de France, les Bleus qui se sont séparés dimanche matin pour allier leur club.
Christian Galthié.
donc les Bleus, pardon, je disais, qui ont rallié leur club. On ne les verra sans doute pas tous en top 14 dès le week-end prochain, mais les cadences infernales ne sont pas terminées pour autant. D'autant que Galthié et son staff vont avoir besoin de quelques-unes de leurs stars pour le mois de juillet, le championnat des nations, une nouvelle compétition que l'on ne va pas pouvoir balayer d'un revers de la main, comme on le faisait notamment avec les tournées. Non, il va falloir la prendre au sérieux, cette compétition, Wilfried. Hein.
Bah oui, parce que finalement elle donnera un titre, bon un titre peut-être un peu en beau au départ, mais c'est une vraie compétition, donc on arrête les tournées de juillet et novembre et on fait un match nord-sud en fait, c'est nouveau, avec les pays du nord qui au mois de juillet vont dans l'hémisphère sud, donc Nouvelle-Zélande-France le samedi 4 juillet, Australie-France le samedi 11 juillet et Japon-France le samedi 18 juillet, et puis en deuxième phase pardon, en novembre on aura France-Fidji le 7 novembre, France-Afrique du Sud le 14 novembre et France-Argentine le 21 novembre. Donc il y a deux poules nord-sud. Par exemple, les Anglais, on le disait samedi soir, iront en Afrique du Sud d'entrée. Et un classement nord-sud. Et les deux premiers de cette compétition s'affronteront sur un dernier week-end de novembre, entre le 27 et le 29 novembre, pour être champion. Mais pas que les deux premiers, en fait. On aura le, ainsi de suite, dans l'hémisphère sud, deuxième, ouais, troisième, ouais, parce que il y aura un champion, mais il y aura un hémisphère vainqueur, avec le nombre des points totalisés. Ah oui. On dira, l'hémisphère nord a remporté cette édition, l'hémisphère sud.
Donc on va être supporter de l'Angleterre pour
l'Europe, voilà, quoi. Non. Mais on est d'accord, le prix de la cible, la finale, ça peut être deux équipes du nord ou du sud. Le 28 novembre.
Non, ce sera non.
La meilleure du Nord contre la meilleure du Sud. D'accord. En fait, parce que si voilà,
autrement, il n'y aurait eu que des finales entre équipes du Sud.
Non, mais si l'Afrique du Sud et la Nouvelle-Zélande gagnent tous leurs matchs, ça aurait été logique qu'il y ait un Afrique du Sud de Nouvelle-Zélande le 28 novembre. C'est pour ça que je demandais ça.
Bah oui, mais ce sera leur meilleur total de points. Ils ont remporté leur poule et voilà, contre les Européens, de l'autre côté.
C'est une bonne ou une mauvaise nouvelle pour l'équipe de France, cette nouvelle compétition, messieurs? Qu'est-ce que vous en dites, Julien?
Bah c'est une bonne nouvelle si on joue avec nos meilleurs joueurs en juillet. Si on envoie comme en Nouvelle-Zélande l'été dernier.
Oui, mais ça veut dire si on joue avec nos meilleurs joueurs, Julien, on va encore plus les fatiguer.
On aura pas les finalistes. Hein,
ça va, ils ont eu 17 jours de vacances pendant le tournoi à destination. Ils peuvent peut-être partir cet été à l'autre bout du monde pour faire cette tournée.
Non, mais les finalistes, c'est pas bonne nouvelle parce que une semaine après la Nouvelle-Zélande.
Effectivement, pour les finalistes, c'est pas possible, mais. Il va falloir adapter le calendrier à cette compétition-là pour pouvoir exister. Mmh. Parce que c'est effectivement l'occasion de te confronter à ce qui se fait de mieux et de continuer de travailler les effectifs. Si tu envoies la bonne équipe pour travailler, c'est une bonne nouvelle. Ouais. Si c'est pour envoyer une équipe bis et après en novembre, je sais pas, je suis partagé sur. Ça dépend quelle équipe on envoie.
En tout cas, on nous a pas arrangé au niveau du calendrier parce que jouer la Nouvelle-Zélande d'entrée sans les finalistes du top 14.
En effet, ça aurait été mieux de commencer contre le Japon, mais c'était aussi pour événementialiser aussi un peu la compétition.
Oui, ils ont mis fort,
Angleterre, ouais, Afrique du Sud, France, Nouvelle-Zélande, ouais, voilà, pour lancer leur nouvelle compétition. Ça peut se comprendre d'un point de vue logistique, mais moi je pense que ça peut marcher et que cette finale de fin novembre, ça peut rajouter une date plutôt excitante dans le calendrier.
Ça peut après, rajouter ça une date. Surtout beaucoup
ça,
d'argent.
Ça tombe pas dans mes poches, tu sais.
Et ça, je sais malheureusement, on aurait pu récupérer un petit peu quelques sous, mais non, ce sera pas le cas. Très bien, messieurs, voilà donc pour ce tournoi 2026, on aura l'occasion évidemment d'évoquer les autres formations dans les semaines à venir et de nous intéresser aussi au top 14 qui va donc reprendre son cours à partir de la semaine prochaine, la Champions Cup également dans peu de temps. Bref, de belles échéances nous attendent évidemment jusqu'à la fin de la saison. Merci les garçons, vous avez fait un très bon tournoi, je suis très fier de vous.
Merci Christophe,
franchement vous gagnez.
Une bonne fin de tournoi, t'as séché le début et tu nous en rejoins.
Je vous ai laissé euphorique et je suis revenu.
Et je vous interdis de contacter Adrien Aiguin et le journal moyen pour l'histoire du Damien Penaud.
C'est déjà fait.
Tu peux compter sur
l'information est déjà passée.
Il n'y a que des balances de toute façon dans cette équipe.
Ah,
merci les garçons. On se retrouve lundi prochain. Bonne semaine. Ciao.